Il est 7h. Ici, on veut que le pays soit uni, donc c'est dur pour moi d'être positive à propos du vote.
Le nouvel accord sur le Brexit doit être soumis au vote demain à Londres. Les Irlandais s'inquiètent. On sera à la frontière nord-sud de l'île dès le début de ce journal.
La trêve en Syrie, accord États-Unis-Turquie conclu hier. Que prévoit-il ? Le détail dans un instant.
23 millions d'heures supplémentaires en souffrance dans la police. Elles vont être payées, mais les conditions retenues laissent les syndicats sceptiques.
Les fonctionnaires de police qui ont fait des heures supplémentaires ne vont pas avoir le choix. On va être payé 12,40€. Brut, c'est pas acceptable.
Elles se sont insurgées contre les trafics à proximité des écoles. Des mamans de Saint-Denis menacées. Elles vont être relogées.
Ils se passionnaient jusque-là pour le baseball et le sumo, mais les Japonais s'enthousiasment désormais pour le rugby.
Au Japon, Europe 1 sur place où les quarts de finale avec l'équipe nippone débute demain.
7h01, bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Après Bruxelles, les regards désormais vers Londres.
Oui, le Parlement britannique dira demain s'il valide ou non l'accord conclu hier sur le Brexit. Un non serait un vrai problème, comme l'a dit hier soir le président de la Commission, Jean-Claude Juncker.
Je ne suis pas responsable de la ratification par le Parlement britannique. Ça, c'est le travail de Boris. Nous avons conclu un accord. Et il n'y aura pas de nouveau report. Ça doit être fait maintenant.
Et rien n'est acquis pour Boris Johnson, puisqu'une partie de sa majorité s'insurge déjà.
Notamment le parti nord-irlandais, le DUP, qui compte 10 députés. Une prise de position dénoncée en Irlande du Nord. Reportage à quelques kilomètres de la frontière entre les deux Irlandes. Justin Morin pour Europe 1.
Ici, on veut que le pays soit uni, donc c'est dur pour moi d'être positive à propos du vote.
Géraldine a connu les troubles, comme on les appelle ici. Alors quand l'écran géant du pub où elle boit son thé lui raconte que le parti unioniste démocrate ne compte pas voter la accord, qui vise pourtant à éviter un retour de la frontière entre le sud et le nord. Ça la rend juste triste. Sur la place centrale, un panneau « Unité de l'Irlande égale la solution au Brexit ». On en trouve un peu partout le long de la frontière. Lennon passe à côté.
C'est triste pour les gens qui habitent ici parce que les Nord-Irlandais ont voté pour rester dans l'Union Européenne. Le DUP ne parle pas au nom de l'Irlande du Nord. C'est juste un parti parmi d'autres. Ils ne devraient pas pouvoir nous dicter notre avenir.
Mais les 10 députés nord-irlandais ont des alliés puissants, une cinquantaine de conservateurs favorables à un Brexit dur, ce qui agace Neil. Il est assureur immobilier et il craint des montagne de paperasse si une frontière réapparaît.
On a juste l'impression que les priorités des politiciens sont différentes de celles des gens qui travaillent dur tous les jours. De toute façon, tout ça, c'est que de la politique.
Tous espèrent que les députés nord-irlandais finiront par céder, voter en faveur de l'accord, pour enfin passer à autre chose. À Crossmaglen, Justin Morin, Europe.
L'Europe et ses dirigeants réunis en sommet, ils ont appelé cette nuit la Turquie à mettre un terme à son intervention militaire en Syrie. Ankara, qui après discussion avec Washington, a accepté hier une trêve de 5 jours face aux Kurdes, un cessez-le-feu sous condition, comme nous l'explique Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
120 heures de cessez-le-feu, c'est ce que prévoit le texte. Une pause de 5 jours dans les opérations pour permettre aux forces kurdes de se retirer. Elles devront aussi rendre leurs armes et démanteler leurs positions. C'est exactement ce que voulait Ankara au lancement de l'opération militaire. Repousser tout le monde à 32 km de la frontière. En échange, dès que la pause sera effective, les Américains lèveront les sanctions prises contre des ministres turcs. Mais attention, cet accord n'est signé qu'entre Turcs et Américains. Rien ne dit que les Syriens et les Russes sont d'accord pour l'appliquer. Et la clé se trouve peut-être dans ce délai de 5 jours. 5 jours, c'est-à-dire jusqu'au 22 octobre. Mardi, c'est précisément le jour où Recep Erdogan doit se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, celui qui, sur ce dossier, semble avoir toutes les cartes en main. Chan Lurfa, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Sont-ils les maîtres du jeu, les Russes, dans la région? Justement, l'influence russe sur ce dossier syrien, on en reparlera avec mon invité tout à l'heure. 7h40, Artem Studenikov, ministre conseiller de l'ambassadeur de Russie en France.
Europe 1, il est 7h04.
C'est une revendication qu'ils ont encore portée début octobre, lors de leur marche de la colère. Les policiers vont obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires.
Annoncé hier soir de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur sur France 2. Guillaume Biais, les gardiens de la paix vont en bénéficier très prochainement.
Oui, dès la fin de cette année, sur leur fiche de paye de décembre, les gardiens de la paix se verront enfin payer une première partie de leurs heures supplémentaires. C'est du jamais vu depuis des années où les policiers ont accumulé plus de 23 millions d'heures supplémentaires. Leur paiement va donc s'étaler sur plusieurs années, payé mais pas récupérable en jours de repos. Les gardiens de la paix n'auront pas le choix et c'est ce qui révolte Olivier Hourcault, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
On n'est absolument pas d'accord. Les fonctionnaires de police qui, eux, ont fait des heures supplémentaires, vont pas avoir le choix, c'est-à-dire qu'on va imposer aux fonctionnaires d'être payés. Et surtout, ce que nous, à Alliance, on réclame, c'est le paiement à l'indice du fonctionnaire. On va être payé 12,47 € brut, c'est pas acceptable.
Alors ce tarif unique, quel que soit le grade, eh bien au contraire, c'est satisfaisant, estime Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité SGP.
C'est une bonne chose sur le principe. Après, c'en est une moins bonne sur le montant de l'heure supplémentaire, tout simplement. Nous, on veut que le montant de l'heure supplémentaire soit revalorisé pour tout le monde. Identique pour tout le monde, mais le même, mais bien évidemment revalorisé.
Et pour chaque gardien de la paix, c'est dès aujourd'hui que la direction de la police va évaluer le nombre d'heures supplémentaires qui seront payées.
Des précisions signées Guillaume Biet pour Europe 1.
Et autre annonce hier du ministre de l'Intérieur, un attentat a été déjoué début octobre en France, un projet de détournement d'avion.
Europe 1. Elle dénonce les trafics près des écoles depuis plusieurs mois. Des mamans de Saint-Denis menacées. La mairie va les reloger. Le journal continue dans un instant sur Europe 1.
Sur Europe 1, la suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
C'est une crise qui s'éternise. 7 mois qu'elle dure. Les personnels des urgences, toujours mobilisés. Une nouvelle journée d'action est déjà prévue le 14 novembre prochain. Et maintenant, les députés s'en mêlent.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la banque Nugé. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, banque Nugé, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins dans le journal de 7h. Au sein de la majorité, certains tentent de peser pour dégager plus de moyens pour l'hôpital.
Oui, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale par les députés n'est franchement pas une sinécure pour le gouvernement. La crise aux urgences dure depuis le mois de mars, la mobilisation reste forte. Et donc dans ce contexte, la pression est considérable, y compris à l'intérieur de la majorité, pour faire un geste en faveur des hôpitaux et surtout pour trouver un moyen de revaloriser les carrières et rendre les métiers de l'hôpital plus attrayants.
Mais le paradoxe, Nicolas, c'est que des postes restent vacants alors que les budgets, eux, sont bien là.
Exactement. La Fédération hospitalière de France le dit, les hôpitaux ont de plus en plus de mal à recruter. Dans toutes les régions de France, il y a des postes vacants, particulièrement en Île-de-France. Martin Hirsch, le patron de la PHP, révélait il y a quelques jours que 400 postes d'infirmiers sont actuellement vacants, alors que l'argent pour les financer est disponible. C'est une situation qui contraint les hôpitaux de la région parisienne à fermer 900 lits sur 20 000, ce qui aggrave la situation à l'hôpital. C'est un cercle vicieux. Le salaire d'un infirmier débutant tourne autour de 1 500 € net, à peine de quoi se loger à Paris, d'où la revendication d'une hausse de salaire de 300 € net porté par les personnels grévistes. Et face à cette grogne qui monte, eh bien les députés de la majorité s'inquiètent. La pression sur le gouvernement n'est pas près de retomber.
C'était l'éclairage éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci. La concession de General Electric, le groupe est prêt à réduire son plan social d'environ 300 postes à Belfort. Le site est bloqué depuis une dizaine de jours. Elles ont commencé leur action au printemps dernier. Des mamans de Saint-Denis formant des chaînes humaines le matin devant des écoles pour les protéger du trafic de drogue. Des mamans aujourd'hui menacées qui demandent à être relogées.
Bonjour Jacqueline Pavilla.
Bonjour.
Vous êtes première adjointe au maire de Saint-Denis. On était sur place dans le journal de 6h30, un peu plus tôt sur Europe 1. Et je vous propose de réentendre le témoignage de ces mamans victimes de menaces.
Des voitures qui ont été défoncées, des pneus qui ont été crevés, des insultes dans la rue, des crachats. Quand on dit à quelqu'un « oui, je vais te brûler », oui, effectivement, c'est pas que tu voulais du bien. Jusqu'à présent, on en est là.
Vous allez donc les accompagner, ces mamans, dans leur démarche de relogement. Vous l'avez annoncé hier. Les victimes partent, les dealers restent. C'est le monde à l'envers, Jacqueline Pavilla.
Alors, vous avez raison, c'est tout à fait, c'est pas normal. Et c'est pas parce que la ville prend sa responsabilité au devant de ses mamans, surtout des mamans, des parents aujourd'hui qui se lèvent contre ce trafic. On peut pas les laisser dans cette angoisse, dans cette insécurité. Mais notre responsabilité première, c'est de tout faire pour stopper ce trafic. Hein. Voilà, il faut pas que les choses tournent. Il ne faut pas que ça soit le monde à l'envers, comme vous venez de dire.
20 policiers supplémentaires avaient été déployés à Saint-Denis face au trafic, justement. Est-ce que la solution, elle est là? Plus de moyens que vous allez mettre en place, peut-être?
Effectivement, là, on se réjouit qu'il y a 20 policiers qui est arrivé sur ce secteur particulièrement, mais ça reste encore insuffisant parce que la question du trafic, ce n'est pas que le quartier là où il y a les mamans là qui se sont mobilisées, c'est la ville, mais au-delà de la ville, hein, vous savez, là, cette question de trafic est très importante un peu partout. Donc, pour qu'on puisse arriver à stopper ce trafic, il faut vraiment plus de moyens et la ville va continuer en termes de prévention aussi à sensibiliser les jeunes sur ces questions.
Merci Jacqueline Pavilla, première adjointe au maire de Saint-Denis, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. 5 semaines de fumée toxique, plusieurs administrations, dont les écoles fermées à Maripasoula en Guyane, ville de 12 000 habitants au cœur de la forêt amazonienne, en cause le feu dans une décharge sauvage vieille de 30 ans. Plusieurs plaintes ont été déposées en justice.
Europe 1. Et votre journal se poursuit dans un instant. On sera au Japon, à la veille du début des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Nippons qui se sont pris de passion pour le ballon ovale. Vous allez l'entendre, à tout de suite.
Europe 1, il est 7h13. Le journal se poursuit avec Marion Calais et Mathieu Béliard.
Ils assurent l'ambiance depuis un mois. Les spectateurs japonais se sont pris au jeu de la Coupe du Monde de rugby.
Et ce, d'autant plus que leur équipe s'est qualifiée, c'est historique, hein, pour les quarts de finale qui vont se jouer ce week-end. Une nouvelle passion pour le rugby que nous raconte Simon Rubin, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place.
Des scènes de liesse en plein Tokyo après la qualification des Japonais contre l'Écosse. Jamais le rugby ici n'avait provoqué autant d'engouement. Lors du dernier match, plus de 60 millions de personnes étaient devant leur télé, plus de la moitié de la population japonaise. Le Japon se découvre fan de rugby comme Ijuko, la trentaine qui n'a pas manqué un seul match du Japon depuis la fan zone de Tokyo.
C'est un moment extraordinaire pour notre pays et aussi pour notre équipe. Il y a énormément de joie ici et c'est vraiment grâce à notre sélection. Je ne connaissais pas vraiment ce sport, mais maintenant j'adore ça.
Une découverte pour certains, mais pour le Japon, on peut plutôt parler de redécouverte, puisque le Japon fut l'un des premiers pays à jouer au rugby au 19e siècle. Mais la tradition ici s'était un peu perdue au tournant des années 2000. Alors, pour le quart de finale dimanche, ça s'annonce tout aussi délirant. Un peu partout dans le pays, en ce moment, on traque les fameux maillots de l'équipe nationale. Kazue a 75 ans, il a écumé les centres commerciaux pour acheter ce maillot rayé blanc et rouge du Japon pour sa petite fille.
Il n'y a vraiment plus beaucoup de tailles disponibles. C'est déjà le 5e magasin que je fais. Je vais en prendre un même s'il est trop grand. C'est formidable pour le pays cette Coupe du Monde et toutes ses victoires.
Et d'ailleurs dans les magasins éphémères de la Coupe du Monde, plus de maillots en stock, les ventes dépassent toutes les prévisions. Engouement totalement fou du côté d'Oita dans le sud du pays où se joueront deux quarts de finale. On pousse la passion très loin puisque les immenses galeries commerciales du centre-ville diffuse en boucle les hymnes des nations participantes au mondial. Et cette ferveur pourrait d'ailleurs continuer encore quelques temps avec un jeu technique et surtout un jeu très spectaculaire, au moins autant que celui des Blacks. Les Japonais auront toutes leurs chances dimanche face à l'Afrique du Sud. Oita, Simon Rubin, Europe 1.
Et pour la France, quart de finale dimanche, 9h15 contre le Pays de Galles. On connaîtra la composition du 15 de Jacques Brunel hein, d'ici un peu moins d'une heure.
J'ai pas encore allumé Twitter ce matin, excusez-moi, mais je dois me faire insulter puisque j'ai dit tout à l'heure une énorme bêtise. J'ai dit le dernier match des Bleus dans cette Coupe du Monde.
Mais
incroyable, incroyable. Qui a pu dire une bêtise pareille? Pays de Galles, France, vous avez envie de pronostiquer? Est-ce que... Attendez, vous savez, sur un malentendu...
Sur un match, on peut se jouer.
Oui, c'est vrai que c'est. On va enchaîner ses poncifs et on sent que Marion Calais connaît bien la chose. Merci beaucoup, Marion. C'était le journal de 7h.